Merci. Maxime de la parole. Et gloire à Dieu pour cela. Encore, qu'on n'oublie pas, oui Seigneur, que toute palpitation se soit annulée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons tout, Seigneur, nous déclarons la restauration au nom puissant de Jésus-Christ. Ok. Remercier Seigneur pour cette grâce encore de venir devant nous pour partager la parole de Dieu, car c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est esprit et elle est vivante. Elle vit. Elle est vivante. Elle est esprit. Et ça me réjouit vraiment que nous soyons ensemble pour écouter cette parole. Je pense que c'est vraiment la bonne parole parce que beaucoup écoutent les paroles du monde qui ne donnent pas la vie au lieu d'écouter la parole de Dieu où il y a la vie. Nous bénissons le nom de notre Seigneur pour cela. Et aujourd'hui, on va continuer la deuxième partie sur les épreuves. On a commencé ça dernièrement, les épreuves, un bâche d'honneur, une punition ou une opportunité. On en parlait. Aujourd'hui, on va terminer par la grâce de Dieu, la partie 2. Avant de commencer, je vais inviter le Saint-Esprit qui me conduit, qui nous conduit. Il touche nos cœurs, qui prépare nos cœurs pour le message, car c'est sa parole, ça vient de Jésus-Christ. Donc, Saint-Esprit, s'il te plaît, viens et prends contrôle des cieux, nous plongeons ces lieux dans le sang de Jésus-Christ, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que c'est toi qui m'explique les paroles qui vont sortir de ma bouche, Seigneur, que ça ne vient pas de mon intelligence, que ça vient de toi. Oh, Saint-Esprit, s'il te plaît, prends les paroles qui sont de Jésus-Christ pour ces moments précis, pour ces temps précis, Seigneur. Utilise moi, Seigneur, pour mon vaisseau, utilise ma langue, Seigneur, pour relâcher ces paroles, Seigneur, pour moi aussi, pour tes enfants, Seigneur. Nous bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous prions que c'est le nom de Jésus-Christ, que ce soit Jésus-Christ qui soit glorifié. Merci, Seigneur, pour ces temps précieux. Nous bénissons ton nom, nous t'exaltons. Au nom puissant de Jésus-Christ, on a prié. Amen.
Amen.
Amen, amen. Ok. Donc, dernièrement, on a parlé de l'or. On a parlé qu'il y a un processus. C'est l'or à l'état brut. Il y a l'or à l'état fini. Mais quand, avant d'arriver à l'état fini, il y a un processus. Il y a un processus à laquelle on doit passer. Et Dieu veut aussi nous amener à un état fini. Donc, Dieu va nous faire passer par un processus. Comme on disait tantôt, il y a beaucoup qui cherchent l'état fini, mais qui ne veulent pas le processus, qui ne veulent pas le test. Mais Dieu veut nous raffiner, Dieu veut nous laver, Dieu veut nous nettoyer pour sa gloire. C'est comme la Bible dit, quand Jésus-Christ, il va laver l'église, il va nettoyer l'église, il va présenter l'église à lui-même. Il va voir que l'église est vraiment jolie, parfaite. Donc, Dieu veut aussi nous nettoyer pour qu'on soit devant lui, on soit doré. C'est pour ça, non? La brosse qu'il utilise, en fait, pour le nettoyer, ce sont des épreuves. Les épreuves, vous allez voir, ça va toucher certains parties de notre vie, certains caractères, mais ça va nous nettoyer, veut utiliser ça pour nous purifier. Donc, quand on voit notre jour devant nous, il faut qu'on pense que Dieu est en train de nous amener à notre Canaan. On a aussi parlé qu'en fait, quand on fait ces épreuves, il y a deux questions qu'on peut se poser. La première question, c'est de savoir qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous apprendre. Et la deuxième question, c'est comment le Seigneur veut se glorifier parce qu'il veut se glorifier. Mais quand on comprend, ça c'est vraiment important, on peut parler de ça. Quand on comprend en fait ce que Dieu est en train de faire pendant les épreuves, on a moins de... Les questions qu'on a, ce n'est plus les questions de doute, ce n'est plus les questions de peur, ce n'est plus les questions... Mais en fait, ce sont les questions du genre, mais Dieu, comment tu vas te glorifier? Comment tu vas faire? C'est comme si maintenant, on est en train de marcher avec le Seigneur, il est en train de nous montrer comment il est en train d'exécuter son plan. Mais si on ne se pose pas s'il y a des questions, ce qu'il veut nous apprendre, on va juste subir. Pourtant, le plan de Dieu est bon, pourtant son plan est bon. Mais dans la bonté de ses plans, les épreuves peuvent être difficiles. Donc, si on change un peu la manière de voir les choses, on essaie de voir ça selon comment Dieu voit, ça va rendre les choses plus faciles. La même manière avec Moïse, on a vu dernièrement, on va toucher ça un peu pour le rappel. Si au départ, il voyait comment Dieu devait opérer, il ne va même pas trop se déranger. Donc, les épreuves, en fait, c'est un badge d'honneur pour ceux qui sont en Christ, on n'a pas de disciples. comment ils étaient contents de faire des choses, de souffrir pour le Seigneur. Donc, quand on sort de Madian, comme on a dit, après Madian, on va être testé. Quand Moïse est sorti de Madian, il est parti dans Exode 3, verset 8. Dieu lui a donné une vision. Dans Exode 3, verset 10, on a déjà lu cela, si je te rappelle. Dieu lui a donné une direction. De la même manière, Dieu nous donne des visions. Dieu nous donne des directions. Dans Exode 5, 1 à 4, Moïse a fait face à face avec Pharaon. C'est là que Pharaon a refusé de laisser partir les enfants d'Israël. On disait en fait que Dieu en fait cherchait une raison pour se glorifier. Il cherchait une raison pour frapper Pharaon. Il cherchait une raison pour déployer sa main forte pour se glorifier. Et souvent aussi dans notre vie, Dieu veut faire cela. Il cherche une raison pour déployer sa main forte. Moi, souvent, on demande au Seigneur pourquoi ces épreuves, pourquoi ce n'est pas. Pourtant, Dieu veut se glorifier. Et pourtant, on voit que Pharaon, en fait, il annonce encore des travaux qui sont plus pénibles. Et ça augmente encore la raison pour laquelle Dieu va agir. Ça, c'est dans Exode 5, verset 5 à 9. Et cela résulte aux plaintes des Israéliens. Les Israéliens se plaignent à Pharaon et les enfants d'Israël aussi partent voir Moïse pour dire « Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire dans nos problèmes ?» Avant, c'était un peu tolérable. Mais vous êtes venu, les problèmes se sont empirés, les problèmes se sont gâtés. Maintenant, la situation est pire. Ils ne comprennent pas, mais comment vous pouvez être le Dieu ? Vous venez mettre la main dans nos problèmes, mais au lieu que ça s'améliore, ça se détériore, ça devient pire. Et souvent, il faut aussi cela. Souvent, c'est là où beaucoup abandonnent, ils se donnent à Dieu, ils invitent Dieu dans les problèmes, ils pensent que Dieu va venir arranger, mais quand Dieu entre, ils pensent que Dieu a tout gâté. Et c'est là qu'ils s'abandonnent, c'est là qu'ils se disent, mais l'affaire ici ne marche pas. C'est là qu'ils se disent, mais pourquoi ça n'a, pourquoi ça n'avance pas, on était là. C'est la première étape, les premières épreuves. Mais si on comprenait ce que Dieu était en train de faire, si on voyait ce que Dieu était en train de faire, notre raisonnement, notre manière de penser, de dire, devait changer de murmure en action de grâce et en louange. Donc, ici, en fait, voici ce qu'ils disent à Moïse. Moïse retourne vers l'Éternel. Maintenant, Moïse repart chez l'Éternel, en fait. Et il pose la question à l'Éternel, comme on a dit, il est reparti à l'Éternel. Et beaucoup ne partent pas à l'Éternel. Et on doit repartir chez Dieu pour poser les questions. On a posé les questions au Seigneur à notre situation. Si ça n'avance pas, si c'est bloqué, on a demandé, mais pourquoi? Pourquoi? C'est ce que Moïse a demandé. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Et voici la réponse de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon, une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. En fait, à travers ces épreuves, surtout que les épreuves persistent, dans ce cas, avec Moïse, ça veut dire qu'en fait, que Dieu veut faire plus. Donc, Dieu ne voulait pas que les Juifs partent juste pour 3 jours. Dieu ne voulait pas que Pharaon les accorde même cela. Mais Dieu voulait utiliser cette situation pour démontrer sa force. Donc, ce que Dieu a fait ici, comme on l'a dit, en fait, ça s'est répandu aux alentours de l'Égypte et bien plus loin. Même ceux qui étaient à Canaan, même ceux qui étaient de l'autre côté du Jourdain ont écouté ce qui s'est passé ici. Donc même, bon, cette histoire en fait a apporté la crainte dans le camp de l'ennemi. Pas seulement dans cette génération, mais dans les générations à venir. Donc en fait, c'est ce que Dieu a, c'est le plan de Dieu. Donc, ce que Dieu veut faire, bien-aimé, dans ta vie à travers ces épreuves, ça peut avoir un impact comme sur les générations. Ça va avoir un impact que peut-être tes enfants et tes enfants vont témoigner par rapport à cela. Ça peut avoir un impact que même les gens avec qui tu travailles, quand il fallait partager ces témoignages, ça sera difficile qu'ils doutent Dieu. Un impact que les gens de votre famille sont obligés de dire, mais en fait, mais là, c'était la main de Dieu.
Donc, Dieu ne veut pas juste les petits témoignages. Le Dieu qui concerne, c'est un grand Dieu. Il veut aussi des grands témoignages. Donc, quand vous faites, quand vous ne fassiez pas, quand vous êtes contre les situations qui sont difficiles, les situations où ça prend du temps, Dieu veut se glorifier. Et cela aussi va augmenter le genre de témoignages, le poids du témoignage qui va sortir de cela. C'est pour ça que c'est important de toujours témoigner. C'est important de toujours grande grâce parce que Dieu est toujours en train de travailler dans nos vies. Et cela aussi sera un avertissement pour l'ennemi, que prochainement il va réfléchir deux fois avant de le faire. Donc, dans ces situations, bien-aimés, on doit faire confiance au Seigneur. Ou beaucoup abandonnent, ils abandonnent parce qu'en fait, ils n'ont pas cette confiance au Seigneur. Donc, même quand c'est difficile, même quand on ne comprend pas, on doit faire confiance au Seigneur. Donc, Dieu peut nous demander de faire certaines choses. Des choses, en fait, que nous, on ne comprend pas avec notre intelligence. Les choses qu'on se met à questionner. Les choses, peut-être, qui vont encore mettre l'ennemi plus en colère. Pourtant, notre prière, c'était que Dieu écarte-nous de ses ennemis pour qu'on passe de l'autre côté. Mais Dieu nous dit, non, partez, faites le face en face. Il nous dit, mais pourquoi? Pourquoi ce chemin? Il y a un chemin qui est plus facile. Mais qui vous a dit que Dieu cherche les choses faciles? Ça, c'est nous qui pensons de cette manière. Dieu n'a pas dit qu'il cherche le chemin facile. Donc, quand Dieu nous envoie sur ces chemins pour faire ces choses, dites gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit glorifié. Car ici, là, il est souvent en train de chercher une confrontation. C'est comme Élie avec les prophètes de Baal. Là, Dieu cherche une confrontation pour les humilier. Donc, si Dieu vous appelle dans ces temps, dans ces situations, il va vous fortifier, il va vous équiper. Ce qu'il cherche de vous, c'est juste un oui, pas des murmures. Mais il veut que vous dites gloire à Dieu. Je suis présent. Donc, sur le plan, peut-être, n'a pas de sens. Mais Dieu cherche à se glorifier dans votre vie. Mais résistez-vous à sa voix. Êtes-vous là à exécuter ce qu'il vous demande de faire? C'est ça. Donc, que cela vraiment soit notre partage. Parce que Dieu veut se glorifier dans nos vies. On doit l'accepter. Donc, on va continuer. Donc, Moïse, en fait, quand Dieu lui a donné cette parole, et qu'il est parti devant Pharaon, et que les choses ne sont pas passées comme prévu, peut-être qu'il s'est dérangé, peut-être qu'il s'est posé beaucoup de questions. Pourtant, Dieu lui avait donné certains indices. Dieu lui avait dit qu'il va délivrer le peuple. Mais le discours qu'il est en train de donner à Dieu, en fait, c'est un discours qu'il est en train de dire à Dieu que, mais tu n'es pas. Ce que tu dis, ton plan a échoué. Donc, si vous lisez un peu derrière ce que Moïse est en train de dire, donc lui aussi, il est en train d'apprendre à connaître Dieu. Il ne connaît même pas encore qui est Dieu. Parce que ce qu'il est en train de dire à Dieu, il est en train de dire à Dieu que son plan a échoué, que pourquoi même commencer ce plan? Donc là, les débuts étaient difficiles. Et cela arrive aussi à beaucoup d'entre nous, pour ceux qui sont encore nouveaux de la foi, ou bien ceux qui apprennent encore à écouter les directions de Dieu. Donc, on est en train de l'apprendre qui il est, comment il fonctionne. Et si Dieu avait déjà parlé à Moïse, Moïse avait l'information, mais la situation qui était devant lui a altéré les informations que Dieu lui a données. Donc, l'expérience qu'il a eue, en fait, a effacé les directions, les informations, la vision que Dieu lui a donnée et il s'est mis à questionner. Mais bien aimé, C'est la parole que Dieu dit dans notre vie, les directions que Dieu dit dans notre vie. Il faut savoir que ça prend déjà soin des circonstances. Ça prend déjà soin des épreuves. Mais les épreuves ne surprennent pas la parole que Dieu nous a dit. Nos expériences ne surprennent pas la parole que Dieu nous a dit. Donc, eux, de prendre cette parole, de les mettre de côté et laisser l'expérience changer notre manière de voir. On a toujours gardé la parole devant nous. C'est pour ça que Dieu a dit à Moïse, à Josué, n'enlève pas ce livre de ta face, n'enlève pas la parole de ta bouche, garde-la tout le temps. Parce que sa parole ne passera jamais. Elle veut dire que toute chose passera. Mais la parole ne passera pas. Mais souvent, quand on a une parole de Dieu, eux de la garder devant nous comme un flambeau dans toutes les circonstances. Les circonstances vont venir allumer cette parole. À la fin, on va questionner, on va oublier ce que Dieu nous a dit. On nous rappelle ce que Jésus-Christ a dit. Quelle personne écoute la parole de Dieu? Quel ennemi va venir chercher à voler? Que ça va tomber dans une terre où il y a des épines, où ça va tomber dans une terre où il y a des cailloux, ça ne va pas pouvoir grandir. Ici, c'est la même chose. Dans les paroles que Dieu nous donne, en fait, et les directions que Dieu nous donne, on pense qu'on a gardé, on est content, on danse, on chante. Pourtant, il y a des épines aussi qui sont en train de pousser en même temps. Il y a des épreuves qui sont en train de venir. Et quand les épines grandissent, quand ces épreuves arrivent, ça étouffe la parole. Ça annule la parole de Dieu. Cette parole qu'il nous a donnée disparaît. Et maintenant, on est conscient de ces épreuves. Ces épreuves deviennent notre expérience. Ça devient la chose sur laquelle on se base. Ça devient notre repère. Et quand on repart vers Dieu, on ne parle plus selon sa parole. Mais regardez ce que Moïse a dit. Il ne parlait plus selon la parole que Dieu lui a donnée. Il a en même temps parlé selon l'expérience qui était devant lui. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi moi tu as envoyé? Au lieu de garder cette parole, dans la parole que Dieu nous donne, les directions que Dieu nous donne, ça doit aller au-delà des circonstances. Ça doit aller au-delà des épreuves. On doit la garder. Et c'est là qu'on va voir comment Dieu va se glorifier. Donc peut-être que c'est votre cas. Peut-être que les expériences qui sont venues effacent la parole de Dieu que vous avez dit. Et les situations qui sont venues effacent la parole de Dieu que vous avez dit. Vous avez commencé maintenant à questionner, on veut commencer maintenant à douter, mais rappelez-vous de cette parole, parce que cette parole, quand Dieu l'a relâchée, il a tenu compte de ses épreuves, il a tenu compte de ses situations. Donc, de la garder et rester enraciné dans cela, et rester vraiment plongé dans cela, que ce soit vraiment une lampe à nos pieds pour nous conduire. Non, ce n'était pas le cas de Moïse. Donc, Dieu, en fait, veut qu'on lui fasse confiance. Dieu ne veut pas qu'on murmure, mais que ce soit des paroles d'adoration et de louange. Donc, même quand c'est difficile, même qu'on ne voit pas comment sortir, demandant à Dieu, « Mais Seigneur, voici la parole que tu m'as donnée, je le crois. Mais comment est-ce qu'on va arriver là-bas? Montre-moi le chemin. » Tu connais, je ne connais pas, apprends-moi. Quel est ton plan? Jésus-Christ a dit aux disciples que le maître ne dit pas ses plans aux serviteurs. Le maître ne déroule pas, il ne montre pas ses plans, il ne partage pas ça avec le serviteur. Que le serviteur n'est pas au courant des plans du maître, l'exécutiste. Mais qu'on est maintenant ami avec le maître. Les amis maintenant. Les enfants de Dieu maintenant. L'époux de Christ maintenant. Maintenant, il peut partir. partager cela. Il peut nous révéler cela. On peut maintenant travailler ensemble. C'est pour ça que la Bible dit en fait, nous sommes co-héritiers. Nous sommes aussi co-héritiers avec Christ, mais aussi on travaille ensemble. Donc, ce n'est pas juste nous, ce n'est pas juste Christ, c'est un truc qu'on fait ensemble. Donc, il veut nous révéler ces choses, il veut nous partager ces choses. Bien plus cela, la Bible dit en fait qu'il y a des choses qui ont été cachées depuis la fondation de la terre. Donc, quand Dieu a créé la terre, il a caché certaines informations, il a caché cette révélation pour ceux qui l'aiment. Il a caché pour l'Église. Il a caché pour ceux qui sont en Christ. Il a caché pour moi et pour vous. Donc, il veut révéler ces choses dans nos vies. Il veut nous révéler cela. Beaucoup de choses. Donc, cette information, ces révélations sont accessibles. Ce que Dieu cherche à faire, ami de Dieu, c'est disponible. Même avec Abraham, quand il devait partir détruire son mouvement, il a dit, mais est-ce que cacherais-je cette information à mon ami Abraham? Donc, il s'est arrêté pour partager cela avec Abraham. Ils ont discuté même de comment exécuter ce plan. Bien-aimé, Dieu veut aussi avoir une discussion avec vous. Il veut que vous discutiez ensemble. Il veut partager cela avec vous. Donc, ne soyez pas dans l'ombre. Entrez dans le conseil de Dieu. Le conseil de discussion. Pour que vous voyez aussi ce qu'il est en train de faire. Et cela va rendre la tâche, va rendre les choses vraiment plus faciles. En fait, ces difficultés, ces épreuves, ces moyens dans lesquels Dieu veut se révéler à nous d'une manière spéciale. Donc, c'est une opportunité aussi pour nous, pour connaître Dieu d'une manière spéciale. Si vous voyez comment Moïse a commencé avec Dieu, il ne connaissait pas vraiment Dieu. Il a appris à connaître l'Éternel. Mais après, il va dire, passe un pas sans toi. Dieu va dire, t'envoie des anges, t'envoie un ange. Moïse va dire, non, on se connaît déjà un peu. On se connaît quand même un peu. Je ne vais nulle part si toi, le grand Dieu, tu ne viens pas avec moi. Il avait à créer cette intimité avec le Seigneur parce qu'il marchait avec lui. Donc, c'est une occasion aussi, bien aimé, pour qu'on connaisse le Seigneur. Pour que notre foi grandisse. Donc, c'est dans cela qu'on va plus connaître que Dieu. C'est dans cela, dans ces épreuves, qu'on va atteindre une autre dimension avec le Seigneur. Exode 6, verset 3 dit ceci. Je suis apparu à Abraham, Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Ici, il se révèle à Moïse comme l'Éternel. Mais bien aimé, la question qu'on peut se poser, la question que peut vous poser, c'est dans ces épreuves, comment est-ce que Dieu se révèle à vous? Quelle est cette révélation spéciale que Dieu, en fait, se manifeste, mais se révèle à travers ces épreuves? Comme est en train de sortir, mais comme dans ces épreuves. Et vous regardez derrière. Comment est-ce que votre intimité a grandi avec le Seigneur? Parce que Dieu aussi vous a amené à une autre dimension. Mais ne ratez pas cela. N'entrez pas dans ces épreuves étant fâché. Envoyez cherchant à sortir rapidement. En étant dans les murmures. Mais tu, puisque vous êtes déjà dedans, utilisez cette opportunité pour bien connaître Dieu, car ce qu'il veut, Moïse a connu comme Éternel. Peut-être que vous le connaissez comme Père. Peut-être que vous allez le connaître comme un Dieu qui est fidèle. Ou peut-être que vous allez connaître plus la longueur de l'amour de Dieu, ou sa largeur, ou sa hauteur, ou sa profondeur. Parce qu'il y a une différence, bien aimé, entre eux. Lorsque vous lisez que Dieu est bon, lorsque vous lisez que Dieu est fidèle, lorsque vous lisez que Dieu est amour, Et le fait que vous expérimentez cela, ça, c'est différent. Donc, vous lisez, quand vous lisez, en fait, vous comprenez cela avec votre expérience ou bien avec une information que vous avez déjà dans la tête. Donc, vous allez prendre un peu dans votre tête ce que signifie amour. Vous allez attacher ça à ce que vous lisez. Vous allez prendre, en fait, ce que signifie fidélité. Peut-être que c'était votre père, peut-être votre conjoint. Vous allez attacher ça là. Et ça, c'est un peu votre définition de ce thème qui est tellement limité. Mais quand vous expérimentez cela, quand vous découvrez cela d'une manière tangible, c'est différent. C'est différent. Ça devient plus solide. C'est réel. Vous savez de votre cœur. Ce n'est plus l'intelligence. Maintenant, l'intelligence cherche juste à mettre des mots. Ça cherche juste à capter quels sont les mots que je peux utiliser pour décrire ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Quels sont les mots que je peux utiliser pour décrire la fidélité de Dieu dans ma vie. Souvent, il n'y a même pas de vocabulaire pour exprimer ce que Dieu est en train de faire. Tellement c'est grand, tellement c'est puissant. Soit vous n'avez jamais expérimenté cela. Les mots sont même limités. Ce sont juste des chants de louange et d'adoration. Parce que ça vient maintenant du dedans de votre cœur. C'est plus l'intelligence. Au départ, quand vous lisez, ça peut être l'intelligence. Peut-être que le Seigneur, par sa grâce, peut vous révéler. Mais quand vous expérimentez, c'est tangible. Quand vous expérimentez le fait que Dieu, la fidélité de Dieu, maintenant, quand vous marchez dans cela, vous sentez vraiment ça comme un bouclier. Vous sentez vraiment ça comme une cuirasse. Vous sentez vraiment qu'il ne peut pas vous laisser tomber. C'est comme vous êtes protégé. Parce qu'il est fidèle. Vous marchez dans cela. Mais c'est à travers ces épreuves, bien-aimés, que vous allez expérimenter cela. Il peut vous dire cela. Vous n'allez pas connaître cela à ce niveau. Mais c'est pas ces épreuves qui veulent le faire. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de vous apprendre? Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre de Dieu dans ces épreuves? Parce qu'il veut aussi vous révéler ces épreuves. Il veut aussi vous révéler qu'il est à un autre niveau. Donc, on va continuer. Dans le verset 6, en fait, le verset 6 nous parle du jugement. Ça dit ceci. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, voici maintenant ce que Dieu est en train de dire à Moïse. Il va renvoyer Moïse aux enfants d'Israël. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargez les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus. Et pas de grand jugement. Pas de grand jugement. Voyez ce que Dieu cherche à faire. Quand on parle de punition, quand on parle de jugement, Dieu va aussi utiliser cela pour relâcher son jugement. Donc Dieu va utiliser cette épreuve face à nos ennemis pour relâcher son jugement contre eux. Donc souvent, Dieu cherche à juger vos ennemis, mais il cherche quelqu'un qui va l'aider à le faire. Il va vous utiliser dans ce processus pour qu'il soit glorifié, que vous savez, vous soyez aussi un outil pour son jugement. Mais beaucoup abandonnent ici. Lorsque les épreuves sont durcies, c'est là qu'ils s'arrêtent. C'est là qu'ils pensent que Dieu ne peut pas les aider. Enfin, il y a beaucoup qui pensent en fait que Dieu ne peuvent pas les aider face à la situation. Ils peuvent dire les bouches que Dieu est fidèle, que Dieu est fort, que Dieu est puissant. Mais dans leur cœur, ils savent que, ils se disent que Dieu a échoué dans cette situation. Parce que depuis, ça fait des temps, des années, beaucoup de temps qu'ils sont dedans. Donc ils se disent que, mais Dieu là, c'est comment? Pourtant, Dieu les attend. Pourtant, Dieu dit, je veux faire plus de choses. Donc souvent, beaucoup retournent sous l'esclavage de l'ennemi. Parce qu'ils ont refusé de marcher selon les plans de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas compris les plans de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas entré ils n'ont pas compris ce que Dieu était en train de faire. Nous voulons que Dieu fasse les choses à sa façon, à leur manière de faire. Au lieu de faire les choses là, la manière de Dieu. C'est pour ça que c'est important quand on dit que c'est plus facile pour les enfants, en fait, d'entrer dans le royaume de Dieu, qu'il faut avoir un cœur d'enfant. Parce qu'un cœur d'enfant est ouvert. Un cœur d'enfant, c'est pas compliqué, c'est pas complexe, c'est ouvert. Mais souvent, on va voir Dieu. On a déjà nos plans. On va avec nos plans que Dieu est cette situation-ci. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous dévancez Dieu peut-être que les 7 pas. Pourtant, Dieu est toujours au premier pas. Dieu vous attend au premier pas. Vous êtes déjà devant. Donc, il faut un cœur d'enfant pour se repentir. 17e, 6e, 5e, 4e, 3e, 2e, 1er. Il dit pardon. Il dit maintenant, Dieu conduit-moi. Souvent, on le dévance. Et Dieu ne veut pas qu'on le dévance. Donc, il faut apprendre à marcher avec le Seigneur. Il faut apprendre à marcher avec le Seigneur. C'est quelque chose qu'on apprend. C'est quelque chose que le Saint-Esprit nous conduit. C'est un apprentissage. Donc, beaucoup retournent à l'état d'esclavage dans l'ennemi parce qu'ils ont été déçus par Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, et ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau, qu'en fait, que lui sera aussi un objet de déception pour les hommes. Que lui aussi sera un objet pour lequel les hommes vont tomber à cause de leur cœur. Et ça, l'est un peu contradictoire, mais comment Jésus-Christ le sauveur? Lui veut être un objet pour lequel les gens vont tomber. Ouais. Parce que les gens refusaient de croire en lui. Les gens refusaient de l'accepter. On le voyait comme fils de Marie. Ils jouent ensemble à la poursuite quand ils étaient petits. Et maintenant, ils doivent se soumettre à lui, de l'accepter. Mais pour beaucoup, c'était comme un objet sur lequel il devait tomber. C'est pour ça qu'il faut avoir un cœur qui est humble. Souvent, la société, la culture nous dit certaines informations qu'avec Dieu, ça n'a pas de... Dieu ne regarde pas ça. Même le cas de Moïse et ses frères et ses sœurs. Bon, verset 9, c'est ceci. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter. L'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter. Ça, c'est aussi le cas de beaucoup de chrétiens. Que Dieu va nous parler. Mais à cause des épreuves, à cause des difficultés des épreuves, on ne pourra pas écouter. On va refuser d'écouter la voix de Dieu. Car Dieu est toujours avec nous. Dieu veut nous conduire. Mais ces épreuves nous empêchent d'écouter la voix de Dieu. Allons vers Dieu dans nos épreuves avec un cœur humble. Parce qu'il veut nous faire sortir de la servitude pour sa gloire. Il veut nous faire sortir de la servitude pour que nous soyons glorifiés, pour qu'il soit glorifié et pour que notre foi aussi se fortifie. Donc, n'abandonnons pas, bien-aimés. Face à ces épreuves, n'abandonnons pas. Chapitre 7, verset 3 dit ceci. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Ça, c'est ce qu'il dit à Moïse. Maintenant, Moïse commence à comprendre en fait ce que Dieu est en train de faire. Il comprend maintenant le plan de Dieu. Dieu lui a maintenant révélé ses plans. Donc, il endurcit le cœur de l'ennemi parce qu'il veut se glorifier. Dieu peut aussi endurcir le cœur de vos ennemis pour que lui se glorifie. Parce que sans résistance, comment Dieu va les frapper de 7 plaies? S'il n'y a pas de résistance, ça sera juste une seule plaie. Mais le nom de Dieu ne va pas se glorifier comme il faut. Canaan ne va pas peut-être écouter, entendre parler de ce que Dieu a fait. Sans résistance. Ce nom ne sera pas reprendre dans les contrées. Sans résistance. Plus tard, les témoignages qui vont sortir seront peut-être aussi très élevés. Donc souvent, Dieu va le faire. Donc Dieu veut travailler avec nous. Il veut aussi travailler dans notre foi. Donc même qu'il endurcisse le cœur de l'ennemi, même qu'il est en train de prolonger le temps de la délivrance, le temps des épreuves, nous devons être là, nous devons garder la foi. C'est pour ça que Jacques 1, verset 2, a dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Waouh! Regardez comme un sujet de joie complète. Une joie complète face aux épreuves. Alléluia! Dans le monde naturel, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais avec Dieu, sujet de joie complète. Pas des murmures, mais des actions de grâce. Sujet de joie complète. Comme vous vous rappelez, on a lu le verset dernièrement où, en fait, Paul se réjouissait parce que face aux épreuves à laquelle il est passé, il a dit que Dieu l'a toujours fait sortir. Il est toujours sorti de ces épreuves victorieux. Nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ, comme il disait tantôt, bien-aimé, quand on fait face aux épreuves, on n'entre pas dans cela si cherchant à savoir si on va gagner ou si on va perdre. Dieu nous a déjà donné la victoire. On entre dans ces épreuves déjà victorieux et on sort aussi déjà victorieux. Donc, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Les saints nous disent que dans ces temps, dans ces épreuves, que notre foi va passer par les épreuves. Notre foi aussi va grandir. Notre foi aussi sera testée. Notre confiance au Seigneur sera aussi testée. Est-ce que vous faites confiance au Seigneur dans vos épreuves? Est-ce que vous gardez la foi dans vos épreuves? Est-ce que quand le Seigneur passe, il voit votre foi dans vos épreuves? Car c'est ça qui produit la patience. C'est qu'on a cette foi. C'est ça qui fait qu'on n'abandonne pas. C'est ça qui fait qu'on est patient. La foi à notre Seigneur. Et notre Seigneur, il est l'auteur et le consommateur de la foi. Il veut voir cette foi pour continuer d'agir dans nos vies. Verset suivant, verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Afin que vous soyez parfaits et accomplis. Voilà le processus. L'état brut à l'état fini. L'état de l'imparfait, l'imperfection, à l'état de la perfection. À l'état où on est accompli. Donc c'est ce processus ici que Jacques est en train de parler. Qu'il y a un processus qui est en place. Et qu'est-ce que j'utilise pour nous amener à un état parfait et accompli? Les épreuves. Et qu'est-ce qui nous permet de surmonter ces épreuves? La foi. La foi qui va produire cette patience. Donc, bien-aimés, gardez cette foi qui va produire la patience. Voyez ce que Dieu est en train de faire dans ces épreuves. Rapprochez-vous de lui. Voyez-le encore d'un angle encore plus approfondi par rapport à avant. Consultez le Seigneur ce qu'il est en train de faire. Entrez dans cette nouvelle dimension de conseil. Vous voyez, quand il y a des entreprises, il y a plusieurs niveaux. Le niveau qui est en haut, c'est le niveau où il y a les gens, ceux qui prennent les décisions. C'est pas juste une seule personne. Ils discutent, ils en parlent. Il y a un conseiller. Même le directeur général, il a des équipes de conseil qui les donnent les discussions et qui ils discutent par rapport à certaines décisions qu'il faut se matérialiser. Même le feu sur le savoir, la discussion, c'est déjà puissant. Donc voilà ce que, en fait, Moïse nous apprend. On va aller rapidement avec Josué, car Dieu n'a pas épargné Josué. Josué aussi a été circoncis. Oui. Vous voyez, quand jusqu'à Moïse est mort, Jésus devait continuer. Il y avait le Jourdain qui était en face d'eux. Il y avait la rivière du Jourdain qui devait passer. Et vous voyez, bien aimé, Jésus veut être avec nous comme passant au Jourdain. C'est juste avec, c'est quand on a Jésus devant nous qu'on peut passer au Jourdain. Mais quand vous regardez la carte, vous allez voir qu'en fait, le Jourdain n'était pas le seul endroit pour arriver à Canaan. Il y avait en fait d'autres entrées que Dieu pouvait les conduire pour qu'ils passent à Canaan. Donc le Jourdain n'était pas vraiment nécessaire sur le plan de vue stratégique, sur le plan de vue de notre intelligence en fait. Pourquoi vous cherchez à passer au milieu de l'eau pourtant? On peut juste se contourner et marcher sur la terre. Donc Dieu les a conduits au Jourdain par exprès. C'est par exprès que Dieu les a mis devant le Jourdain. C'est par exprès que Dieu les a mis devant cette situation. C'est par exprès que Dieu les a mis devant cette épreuve. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Même dans nos vies, il y aura des épreuves que Dieu va mettre par exprès. Il y aura la route qui sera plus facile. Même si on pourra utiliser notre intelligence pour savoir qu'en fait, ça c'est plus facile. Donc je vais ici, mais Dieu va dire non. Va de ce côté-là. Et vous-même, vous savez que mais là-bas, c'est plus difficile. Mais pourquoi aller là-bas? Pourtant, voici une route qui est plus facile. Ça arrive à destination. Mais Dieu va dire non. Dieu va chercher, il va vous mettre face à cette épreuve. Donc, nous, comme j'ai dit tantôt, nous avons l'habitude de chercher des moyens qui sont faciles. Mais ce n'est pas le moyen facile qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est que nous soyons purifiés, c'est que nous soyons transformés à l'image de Christ. Et pour arriver à cela, il faut des épreuves. Donc Dieu va voir la destination. Il y a un chemin qui vous amène à la destination, c'est être transformé. Il y a un chemin qui vous amène à la destination, étant transformé par les épreuves. Il va choisir, c'est la voie des épreuves, parce qu'il veut que vous soyez transformé. Il veut que vous le connaissiez. Il veut que vous, à travers de vous, lui aussi, soit glorifié. Et ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël, avec Jésus. Donc Dieu a dit, allez par le Jourdain. Et à travers ce jour-là, bien-aimés, ils ont connu Dieu d'une autre manière. Dieu s'est glorifié parce que plus tard, dans les Psaumes, on parle de ce que Dieu a fait avec Josué par ce jour-là. À travers ce jour-là, ils ont connu Dieu d'une manière plus profonde par rapport à avant. Donc, c'est pas... Si on peut avoir tendance à fuir les épreuves, pourtant Dieu veut qu'on passe à travers ces épreuves, bien-aimés. On doit discerner ce que Dieu est en train de faire. On a discerné comment le Saint-Esprit nous conduit. Et si vous voyez donc comment ça s'est passé, ils avaient l'arc de l'Alliance, et qui symbolisait en fait à l'époque la présence de Dieu. Dieu avec eux, le Saint-Esprit. Dans certains livres, on dit que ça symbolise en fait Jésus-Christ, qu'il était présent. Et ça nous montre en fait que pour passer ces épreuves, c'est juste avec Jésus-Christ. Pour passer ces épreuves, c'est qu'on a le Saint-Esprit à nous. Pour passer, bien-aimé, notre Jourdain, on doit être conduit par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup qui sont toujours en train de contempler les Jourdains. Quand ils ont refusé Jésus-Christ, ils ont refusé les voies du Seigneur, ils ont refusé d'accepter Jésus-Christ. Ils ont connu Dieu une fois, Dieu peut-être les a peut-être déçus. Ils refusent maintenant d'accepter Jésus-Christ. Et ce qui fait qu'ils contemplent le Jourdain. Et ici, en fait, quand on parle de Jourdain, c'est la route qui mène à Canaan. cette épreuve à laquelle vous devez passer, cette épreuve qui fait partie de votre destinée, qui va vous amener à Cana. Quand il y a des épreuves, en fait, qui ne font pas partie de votre destinée, pas qu'on en parle, il y a des épreuves qui ne viennent pas de Dieu. Donc, c'est vous-même par la rébellion, vous-même, vous êtes parti chercher ça. C'est que Dieu n'est même pas dedans. Mais vous êtes parti chercher parce que vous êtes rébellé. Mais il y a beaucoup qui sont rentrés en Égypte. Ils ont contemplé le Jourdain. Ils sont rentrés en Égypte. Ils font des choses. Ici et là, ils vivent la vie. Mais ça n'a rien à voir avec la destinée. Les Jourdains les attendent toujours. Et c'est ça dans notre vie. C'est ça dans ce... Beaucoup peuvent vivre dans cela. Ils font la vie, ils partent peut-être à l'église, ils chantent, ils dansent, ils font la vie, mais en fait, ça n'a rien à voir avec la destinée. Les Jourdains attendent toujours. Le Jourdain est toujours devant eux. Donc, il faut Jésus-Christ pour passer ce Jourdain. C'est juste trois scènes ceci. Jésus dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Donc, en fait, c'est Dieu qui agit. Ce sont les directions de Dieu. C'est Dieu qui fait des prodiges. On doit se préparer pour cela. On doit se préparer à suivre ces directions. Rapidement, verset 11. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur. De toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. À ces versets, maintenant 15 à 16. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés du bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la saison. Ici, il y avait un débordement de l'eau. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tartan, et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer salée, fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Ici, vous pouvez voir que le Jourdain s'est ouvert. Et en ce temps, comme vous avez lu, en fait, le fleuve débordait de son nid. Mais Dieu les a conduits là-bas. Et l'arc était devant. Les sacrificateurs qui portaient l'arc étaient devant. Ça montre que le Seigneur va être devant. Dieu doit nous conduire. Son Saint-Esprit doit nous conduire à travers ces épreuves. Ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas notre intelligence. Avant de faire un pas, on va se rassurer que nous sommes en train de suivre les pas de notre Seigneur. Donc, bien-aimés, voici en fait ce qui se passe face à nos épreuves. C'est un moyen dans lequel Dieu veut se glorifier. Un moyen dans lequel Dieu veut aussi démontrer son jugement face à l'ennemi. Une opportunité pour le Seigneur. Aussi une manière pour nous de connaître le Seigneur, de se rapprocher du Seigneur, d'être fortifié, d'être transformé, d'être purifié pour la gloire de Dieu. Je vous donne ce message dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.